Vous écoutez, on lit pour vous.
Immigration et niveau de vie ne riment pas. Une chronique de Gérard Bérubé, parue le 25 juillet 2023 dans Le Devoir. Le Canada est à la traîne des économies développées au chapitre du niveau de vie de sa population qui, par surcroît, ne cesse de se dégrader depuis 2014. On parle ici d'un indice, le PIB réel par habitant, dont la croissance anémique condamne le Canada à se classer bon dernier parmi les membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Si le dénominateur, gonflé par une porte désormais grande ouverte à l'immigration, n'explique qu'en partie cette baisse, se veut-il une réponse inappropriée à la faiblesse chronique du numérateur? Dans sa lecture canadienne publiée en mars, l'OCDE résumait que l'accroissement de la population, soutenu par des niveaux élevés d'immigration, continuera d'être un important moteur de la croissance de l'économie dans les années à venir. Mais l'amélioration à long terme du niveau de vie fait plutôt appel à une productivité plus élevée. La faible croissance de la productivité depuis 2015 a entraîné un élargissement des écarts de PIB par habitant entre le Canada et les économies plus performantes. Ainsi, l'immigration débridée n'est qu'un remède temporaire à la pénurie de main-d'œuvre et qu'un contre-pied parmi d'autres au vieillissement de la population. Pour un apport fondamental structurant et pour le plus long terme, il serait plutôt bienvenu de remédier à des années de faiblesse de l'investissement et de croissance de la productivité. Autrement dit, une hausse du PIB, même dopée par une croissance démographique exceptionnellement forte, ne va pas nécessairement de pair avec une augmentation du niveau de vie. D'autant qu'ajouter des personnes à la population n'est pas sans coût, surtout quand on le fait rapidement, rappelle le Conference Board du Canada, qui évoque notamment son effet sur le marché immobilier résidentiel, mais aussi sur l'inflation et sur les services publics. Bien que les nouveaux arrivants soient un ajout fort apprécié à l'offre de main-d'œuvre, ils font aussi augmenter la demande globale, ajoute-t-il. Progression anémique du PIB par habitant. Dans son étude « Travailler dur » ou « Travailler, c'est trop dur », le mouvement Desjardins revient à cette progression du PIB réel par habitant inférieure à la moyenne des économies avancées pour ajouter que l'écart s'est creusé graduellement, mais de façon constante depuis 2014. En fait, le virage amorcé depuis 2014 vers une croissance à faible productivité et des secteurs moins intenses en capital a nuit à la productivité globale du travail ainsi qu'à la croissance du PIB réel par habitant. La croissance démographique n'est pas le seul élément en cause. Une progression plus modeste de la productivité par heure travaillée ou productivité du travail fait aussi partie de l'explication. Se greffe à l'équation une composition de l'activité économique reposant désormais davantage sur des industries ayant une intensité de capital moindre et ayant connu une croissance de la productivité minime, voire négative. Bref, l'activité économique s'est déplacée vers des secteurs aux gains de productivité plus limités. Plus précisément, elle a surtout augmenté dans les services publics à partir de 2015. Peut-on lire. Sans compter la carence en investissement dans les structures non résidentielles, les machines et équipements et la propriété intellectuelle, plutôt terne depuis 2015. L'utilisation de ces intrants rend la main-d'œuvre plus efficace, explique l'économiste Marc Ercolao de la TD. Il ajoute que le problème peut également être attribué au perpétuel déclin des dépenses en recherche et développement au cours des 20 dernières années, et qu'il faudrait aussi retenir la concentration relativement importante de petites entreprises au Canada dans la production et l'emploi, les entreprises de plus petite taille ayant tendance à exporter et à investir moins que leurs homologues de plus grande taille. Sous l'angle mathématique, il y a donc inadéquation entre la progression du numérateur et celle d'un dénominateur dont la croissance, sous l'effet d'une immigration suralimentée, vient amplifier le phénomène d'érosion du niveau de vie observé au Canada, peut-on déduire? D'ailleurs, à l'ATD, l'on constate que le retard du Canada en matière de PIB par habitant n'est pas nouveau, mais qu'il s'est aggravé depuis la pandémie. L'effectif canadien évolue actuellement à un rythme historique de 3 % sur une base annuelle, mais il s'agit d'une évolution très récente. La croissance moyenne de la population depuis 2020, 1,2 % n'a dépassé que d'un cheveu son rythme d'avant 2000. En revanche, la croissance du PIB réel suit une tendance à la baisse depuis les années 1980. Marc Ercolao explique qu'au cours de la décennie pré-pandémie, le Canada a égalé les États-Unis en termes de croissance moyenne à un peu plus de 2 % par an et s'est maintenu au-dessus de la moyenne de 1,4 % du G7. Et dans les années post-pandémiques, le Canada a enregistré la deuxième expansion moyenne parmi les plus rapides, l'un des principaux moteurs de la super-performance ayant été la tendance du pays à de forts gains démographiques. Mais lorsqu'on l'ajuste pour tenir compte de cette variable démographique, on peut observer une détérioration du PIB réel par habitant du Canada. Au début des années 1980, le Canada bénéficiait d'un avantage par rapport à la moyenne des économies avancées de près de 4 000 $ américains tout en restant assez près du niveau des estimations américaines. En 2000, cet avantage s'était pratiquement évaporé et le PIB par habitant des États-Unis avait devancé celui du Canada de plus de 8 000 $ américains. Depuis le choc pétrolier de 2014-2015, la performance du Canada est allée de mal en pis, le PIB réel par habitant augmentant d'un maigre taux de seulement 0,4 % par an, contre une moyenne de 1,4 % pour les économies dites avancées. On peut donc conclure que l'économie canadienne a masqué ses problèmes de productivité persistants par une croissance qualifiée d'insoutenable, alimentée par l'ajout de travailleurs. Malheureusement, sans réorientation fondamentale, peu de redressement du niveau de vie canadien semble se profiler à l'horizon. L'OCDE prévoit que le Canada se classera bon dernier parmi les membres de l'OCDE pour la croissance du PIB réel par habitant jusqu'en 2060, mais en exergue l'économiste de la TD. C'était « Immigration et niveau de vie ne riment pas ». Une chronique de Gérard Bérubé parue le 25 juillet 2023 dans Le Devoir.
Le taux d'occupation des refuges d'urgence québécois est le plus élevé du Canada, un texte de Stéphanie Marin, paru le 10 avril 2024 dans Le Devoir. C'est le Québec qui a enregistré le taux d'occupation le plus élevé dans ces refuges d'urgence pour victimes de violences, le jour de 2023, où Statistique Canada a dressé un portrait de la situation au pays. L'organisme fédéral de statistique a évalué la situation pour l'année 2022-2023, mais a aussi utilisé une autre méthode. Il a tracé le portrait de l'occupation de ces refuges, ou maisons d'hébergement de courte durée, lors d'une journée type déterminée à l'avance. Pour 2023, le choix s'est porté sur le 13 avril. Il s'agit en quelque sorte d'une photographie du nombre de personnes hébergées et de leurs caractéristiques. Ce jour-là, les refuges d'urgence et de courte durée du Québec affichaient un taux d'occupation de 91 % le plus élevé au pays. On parle ici du pourcentage de lits occupés. La province était suivie par l'Ontario, dont les maisons étaient pleines à 83 %. Si des maisons d'hébergement en zone rurale avaient encore des lits disponibles le 13 avril au Québec, cela signifie que celles des grandes villes, généralement plus occupées, ont dû refuser l'admission à des personnes en détresse cette journée-là, comme à bien d'autres occasions au cours de l'année. Le 13 avril 2023, 40 % des refuges au Québec affichaient complet. Lors du cliché précédent pris par Statistique Canada, Le 14 avril 2021, c'est aussi le Québec qui avait le taux d'occupation le plus élevé, tout comme en 2018, un taux d'occupation à 103 %. Les refuges d'urgence sont ceux qui accueillent les victimes de violences qui quittent leur domicile de façon planifiée ou en catastrophe après une intervention de la police. Elles y restent quelque temps, souvent 2 ou 3 mois, et si elles en ont besoin, elles peuvent résider par la suite dans un établissement d'hébergement de longue durée, parfois appelé « maison de deuxième étape ». Louise Riendeau, une responsable du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, n'a pas été surprise par les chiffres de Statistique Canada. Cela correspond à la réalité que l'on voit dans nos maisons. Le regroupement en compte 47, répartis dans toutes les régions, sauf le nord du Québec. Selon les propres données de l'organisme, le taux d'occupation de ces maisons en 2022-2023 était de 103 %. Comment un taux de plus de 100 % est-il possible? C'est quand on met des matelas de plus par terre pour accueillir des femmes en danger, répond Mme Riendeau. Les taux d'occupation sont plus élevés qu'ils ne l'étaient dans le passé, ajoute-t-elle. Les maisons d'hébergement de courte durée de Montréal et de l'Outaouais sont toujours pleines et refusent des femmes par manque de place. Et si des places se libèrent sur la Côte-Nord, ça n'aide pas les Montréalaises qui sont à la recherche d'un refuge pour se mettre en sécurité. Manque de logements abordables. L'une des raisons expliquant ce trop-plein est le manque de logements abordables, dit-elle. Des femmes sont prêtes à quitter les maisons d'hébergement pour victimes de violences, mais elles restent prises, car elles sont incapables de se payer un appartement. Cette raison est d'ailleurs notée par Statistique Canada dans son analyse. Environ 85 % des maisons d'hébergement, dont une forte proportion de celles du Québec et des provinces de l'Atlantique, l'ont mentionné. Le jour de l'instantané de l'enquête, 7686 personnes résidaient dans les 562 établissements d'hébergement pour victimes de violences au pays, toutes catégories confondues. La grande majorité de ces personnes hébergées étaient des femmes et leurs enfants, plus de 9 personnes sur 10. Les femmes et les enfants autochtones ou résidents non permanents étaient surreprésentés. Le 13 avril 2023, environ 3 établissements d'hébergement sur 10 au Canada ont déclaré avoir refusé l'admission de certaines femmes. Ce jour-là uniquement, 705 femmes n'ont pu y trouver refuge et dans la grande majorité des cas, la raison était le manque de lits. Statistique Canada note aussi qu'environ les 2/3, 65 % des résidentes des refuges avaient subi de la violence psychologique. Les autres formes de violence rapportées étaient la violence physique, 58 % et l'exploitation financière, 39 % Au moment où ces lignes étaient écrites, les ministères concernés à Québec et à Ottawa n'avaient pas réagi à ces plus récentes données. C'était le taux d'occupation des refuges d'urgence québécois est le plus élevé du Canada, un texte de Stéphanie Marin, paru le 10 avril 2024 dans Le Devoir.
Les désespérés du temps. Une chronique de Nathalie Plate, paru le 7 août 2023 dans Le Devoir. Déjà août qui surgit, nous poussant doucement vers la promesse de son septembre. Sur les visages croisés dans les allées des magasins d'articles scolaires, sur les trottoirs de nos villes ou sur la chaise d'en face de mon bureau de psy, il me semble attraper déjà comme l'esquisse d'une crispation, burinée au creux des sillages laissés il y a quelques semaines à peine. La détente paraît avoir été de si courte durée pour tant d'entre nous. Le rythme imposé par les horaires, les routines, les listes, les cases qu'il faudra cocher, comme s'il s'agissait de cela et que vivre revenait déjà nous souffler à l'oreille que le temps des vacances s'étiole pour laisser place à celui d'une imposture. Le temps de la contemplation tire à sa fin, alors que, nous semble-t-il, vient à peine de nous raccompagner à la maison, celle qu'on désertera si facilement. Dès que la course folle à laquelle tout le monde consent reprendra, en continuant de scinder le monde en deux clans, ceux qui réussissent et les autres. Pourtant, il ne faudrait pas croire que l'oisiveté soit devenue la nouvelle façon d'embrasser la vie, quoi que nous en disent parfois ces quelques donneurs de leçons venus d'une époque où les magasins étaient encore fermés les dimanches. Si le travail acharné a marqué le territoire sur lequel nous vivons, les saisons ont aussi longuement permis ce luxe des rythmes organiques qui, désormais, n'indique plus rien qui vaille aux colonnes Excel de rendement qui, elles, restent ouvertes au néon comme les dépanneurs 24/7 sans jamais de répit. Jamais! Pour des tonnes d'entre nous, ce n'est en rien l'idée du travail qui rebutera, mais bien davantage celle de l'hégémonie des horaires qui reviendra définir nos jours, remplir nos boîtes courriels, tracer nos rides du souci renouvelable de l'inachevé. Que je meure ici, au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Murmurerons-nous alors pour nous-mêmes, alors que la liste de fournitures scolaires, reçue à peine l'année d'avant terminée, semblera nous narguer sur le comptoir de la cuisine, juste à côté des autres papiers qui enserrent nos existences, transformant le temps en une suite de choses à cocher, à classer et à répéter. Le long dimanche de juillet s'est achevé dans un mois d'août qui se déguise en automne, et déjà, il nous semble qu'il sera bientôt le temps de désamorcer le courriel automatique des vacances. Parti me retrouver. Pendant ce temps, cherchez à user quelqu'un d'autre. Merci. Le temps de l'apnée, le temps de la surcharge, le temps carré, le temps des obsessions, des anxiétés, qui pourrait mener à celui des épuisements, des effondrements et des craquements de structure, reprendra, ne laissant aux symptômes d'autre choix que celui de nous ramener à la maison de nous. Parce que c'est ce qu'ils font pour nous, pour toutes ces personnes en arrêt, en maladie, en épuisement, nos symptômes. C'est ce qu'ils font. Venir nous dire qu'un autre temps existe en nous, celui de notre existence, qui se refuse à vivre seulement ces quelques semaines passées à contempler cet univers dans lequel nous évoluons. Le travail a beau être aimé, pour ce qu'il charrie de dépenses de soi, de participation à la roue du monde, de nécessité ou de sublimation d'une sorte d'élan vital, c'est sa modalité qui continue d'exclure bien des natures humaines de ses rangs. Pour tous ceux qui échappent à cette variation de la névrose obsessionnelle devenue normative, pour les rêveurs, les fatigués des nuits courtes du dernier né, les endeuillés de l'année, les nouveaux parents séparés qui errent, le cœur en charpie, entre les changements de garde et les horaires de camp de vacances, pour les adorateurs de toutes les choses inutiles et jolies, pour les flâneurs qui s'amusent à penser le monde avec des données qui ne se calculent pas, pour les blessés du moderne, les écorchés qui essaient de reprendre une place dans ce qui les exclut, pour les créatifs, les diagnostiqués de toutes les catégories qui soient, il y aura dans les prochaines semaines cette montée d'un cran qui prendra les allures d'une rencontre violente avec une liste apparemment inoffensive, quoique infinie, de consignes, de formulaires et de classements. Les temps organiques de ma vie ont été les plus beaux, à commencer par ceux de l'enfance, qui donnent le ton, puis ceux des grossesses, des naissances, et de ce quatrième trimestre où tout est consacré à l'apprivoisement d'un être nouveau. Il y a eu tous les temps des amours naissantes et des grandes douleurs qu'elles infligent à l'âme, puis celui de ma maladie, qui m'a rappelé, à chaque souffrance qui trouvait sa fin, combien ce corps était un cadeau. Tous ces temps sont mes favoris, avec ceux des vacances, bien sûr, et aussi tous ceux où je prends le temps de faire mon travail en étant branché sur rien d'autre que mon désir, celui de travailler, de bien travailler, sans avoir de notes au bulletin, de likes, ou même d'un surplus de paye au bout de la course. Alors, permettez-moi de laisser encore des courriels sans réponse express, tandis que je prends un temps fou, trop long, je sais, à lire vos récits d'amitié que vous m'envoyez en rafale depuis quelques semaines. Laissez-moi me délecter de ce temps qui défonce les cases pour jouer encore de manière radicale le jeu de nos échanges, de vous à moi, de moi à vous, en dehors des courriels automatisés. Tandis que Meta bloquera cette chronique sur vos fils Facebook, je souhaiterais que vous preniez le temps de marcher jusqu'au dépanneur, ouvert 24/7, du bout de votre rue, que peut-être vous ne voyez plus. Tandis que vous êtes en train de répondre mentalement à toutes les injonctions crachées de vos listes. Je souhaiterais que vous marchiez en humant l'air du mois d'août, en contemplant votre monde, quel qu'il soit, en y cherchant le beau qui traîne, en osant le sourire aux gens croisés. Je souhaiterais que vous retrouviez le contact avec le papier et que votre lundi s'ouvre sur une respiration, une prolongation des vacances, une suspension de l'apnée. Je souhaiterais ceci pour vous. Avec la mention suivante au bas de la bouteille, rituel à répéter. Au-dedans rassemblés les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis, on m'a dit qu'ils étaient assez jeunes et pourtant, semble-t-il qu'ils ne font que parler lentement, à des milles à la ronde. Extrait de la chanson « Le Dôme » de Jean Leloup. C'était « Les désespérés du temps », une chronique de Nathalie Plahat, parue le 7 août 2023 dans Le Devoir.
Le Canada ne peut pas loger plus d'immigrants. Un texte signé Michel Girard, paru le 8 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Le Canada a-t-il la capacité résidentielle pour accueillir 500 000 immigrants par année d'ici 2025, comme le souhaite le gouvernement de Justin Trudeau? Non, vraiment pas par les temps qui courent. Voici le problème. Explication de Stéphane Marion, économiste et stratège en chef à la Financière Banque nationale. La décision du gouvernement fédéral d'ouvrir les vannes de l'immigration pendant le cycle de resserrement monétaire le plus agressif depuis une génération a créé un déséquilibre record entre l'offre et la demande de logements. À preuve, la population en âge de travailler, 15 ans et plus, a augmenté, selon Statistique Canada, de 238 000 personnes au deuxième trimestre. Il s'agit de la plus forte augmentation trimestrielle jamais enregistrée, explique M. Marion, tout en précisant que la norme historique s'élève à 82 000 par trimestre. On parle donc ici d'une hausse au deuxième trimestre qui est presque trois fois supérieure à la normale. Déséquilibre offre-demande. Pendant ce deuxième trimestre 2023, quelle a été l'augmentation trimestrielle des mises en chantier de logements? Elle est de 62 000 logements dans l'ensemble du pays. Le ratio des mises en chantier par rapport à la croissance de la population en âge de travailler est de 0,26, 62 000 mises en chantier de logements, versus 238 000 personnes de plus. Ce ratio est ainsi tombé, selon M. Marion, à un niveau inédit, alors qu'il se situe par le fait même à moins de la moitié de sa moyenne historique de 0,61. Pour répondre à la demande en logement, précise Stéphane Marion, il faudrait que les constructeurs mettent en chantier 144 000 unités par trimestre, ce qui équivaut à 576 000 en rythme annuel, soit le double de la meilleure performance jamais réalisée. En cette difficile période, où les pressions sur l'accessibilité au logement s'intensifient partout au pays, le stratège en chef de la financière Banque nationale en arrive à la conclusion suivante. Nous pensons qu'Ottawa devrait réviser ses objectifs en matière d'immigration pour permettre à l'offre de rattraper la demande. Au Québec, le déséquilibre entre les mises en chantier de logements et la croissance trimestrielle de la population en âge de travailler, les 15 ans et plus, sévit dans toutes les provinces. Au Québec, la population des 15 ans et plus a augmenté au deuxième trimestre de 27 600 personnes. Le ratio trimestriel mise en chantier de logements versus croissance de la population des 15 ans et plus lors du second trimestre est de 0,30. C'est un peu mieux que le ratio canadien de 0,26, mais il n'en demeure pas moins qu'à 0,30. C'est tout de même seulement la moitié de la moyenne historique. Croissance sur 12 mois. De juin 2022 à juin 2023, soit en un an, la population en âge de travailler a augmenté de 704 100 dans l'ensemble du Canada à comparer à 252 071 logements mis en chantier selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL. Durant cette même période de 12 mois, la population des personnes de 15 ans et plus a augmenté de 97 700 au Québec. Le nombre de logements mis en chantier? 43 834. C'était « Le Canada ne peut pas loger plus d'immigrants », un texte signé Michel Girard, paru le 8 août 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.